moi, je me pose des questions. Je me demande si elle va pas prendre sa retraite, Mario. Je veux pas lancer une bombe aujourd'hui. Ce n'est qu'une impression personnelle, mais pas préparée pour jouer à Roland-Garros. Elle y va parce qu'elle a sa place, parce qu'elle est top 100, parce que oui, c'est une belle visibilité.
Eugénie Bouchard, donc, qui s'est fait battre aujourd'hui en deux manches assez expéditives de 6-2, 6-2. Hélène Pelletier qui répondait à la question, coudon, parce que c'est un retour au jeu pour Eugénie. On voyait que son jeu était pas à point. Je lui demandais, est-ce que la motivation, c'est la visibilité et la bourse? Parce que c'est autour de 50 000 $. Philippe Quentin se joint à nous. Je pense qu'il a sursauté un peu comme moi quand Hélène a évoqué la possibilité de retraite. Bonsoir, Philippe.
Salut, Mario.
Hein, je pense que c'est le cas. Hein?
Oui, ben tout à fait. C'est une remarque très intéressante d'Hélène Pelletier. Puis quand on connaît Hélène, on sait qu'elle a... c'est une commentatrice bien informée, puis oui, avec beaucoup d'analyse et tout. Alors, je pense que son analyse mérite qu'on s'y attarde. Je dois t'avouer que moi, à prime abord, là, d'un œil extérieur, c'est quelque chose qui m'étonnerait un peu. Je trouve que Eugénie Bouchard, quand même, n'a que 25 ans. Et on a vu dans le passé, Mario, des joueuses qui ont atteint leur sommet plus tard dans leur carrière. Je pense à une joueuse comme Angélique Kerber, par exemple, qui a vraiment connu ses meilleurs moments à partir de 27, 28 ans, où elle a vraiment pris confiance en elle. Et je sais qu'avec Eugénie Bouchard, beaucoup de gens se disent « c'est fini, ça a été une éclipse, finalement, ça n'a pas duré plus longtemps que ça, Eugénie Bouchard ». Mais je pense que c'est une athlète qui a quand même du ressort et qui est peut-être, si elle décide de vraiment faire le focus sur le tennis, de retrouver la santé, parce qu'on sait qu'elle a été blessée quand même assez régulièrement au cours des dernières années, qui serait capable de faire un bout de chemin encore. Est-ce qu'elle peut redevenir numéro un mondial? Certainement pas, je ne crois pas. Est-ce qu'elle peut devenir une joueuse de top 20? Je pense que oui. Mais encore une fois, il faudrait qu'elle fasse énormément d'efforts puis qu'elle se consacre à plein à son sport. Et je pense aussi que pour une athlète comme elle, oui, c'est clair, et Hélène le mentionnait, qu'elle a certainement d'autres opportunités que le tennis, parce que bon, il y a du modeling, puis il y a toutes sortes de choses qu'elle peut faire. Mais il en reste pas moins que j'ai l'impression que son point d'ancrage, son assise, c'est son tennis quand même. Si elle est devenue aussi populaire, c'est en raison du tennis. C'est le tennis qui a fait que elle a pu obtenir une telle visibilité sur la scène mondiale.
Mais la popularité étant maintenant acquise et la compétition étant actuellement, semble-t-il, trop forte la plupart du temps pour elle, ça donne lieu à réflexion.
Ça donne lieu à réflexion.
Et comme Hélène l'a souligné, là, pense à sa défaite, cinglante défaite contre Bianca Andreescu qui a dû la bousculer intérieurement.
C'est un point tournant,
Et pense au fait qu'elle n'est pas inscrite au tournoi préparatoire à Wimbledon. Pense au fait qu'elle y va actuellement sans avoir... Tu sais, c'est son retour au jeu et je suis convaincu qu'elle est fière. Puis là, la bourse, tu peux pas cracher là-dessus. Je sais pas si les entrées d'argent sont moins là qu'il y a quelques années. C'est beaucoup d'éléments qui font réfléchir, en tout cas.
Oui, c'est certain. Puis ce sont tous d'excellents points que tu soulèves. Puis je noterais simplement ceci. Tu dis que sa popularité est maintenant acquise. Puis ça, c'est vrai, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais si elle arrête de jouer, combien de temps la maintient-elle? Il y a l'acquérir, puis la maintenir après. Ouais. Peut-être qu'elle peut faire la transition puis réussir à maintenir ça dans d'autres secteurs, mais il en reste pas moins que c'est d'abord et avant tout une athlète. Moi, je dois t'avouer que si c'était le cas, ça me ferait de la peine quand même, parce que je pense que à 25 ans, elle est encore bien jeune pour envisager une option comme celle-là, et surtout que il y a à mon avis encore une capacité de rebond, mais pas un rebond qui lui permettrait d'atteindre l'objectif qu'elle s'était fixé à la fin de sa saison 2014. Après son année magique en 2014, elle avait justifié ce premier d'une longue liste de changements d'entraîneur en disant que elle voulait un entraîneur. Maintenant, c'est quand elle avait laissé Nick Saviano une première fois. Saviano est revenu dans le portrait plus tard, mais elle avait dit « Maintenant, je veux un entraîneur qui va m'aider à atteindre mes objectifs. Mes objectifs, c'est gagner un tournoi du Grand Chelem puis être numéro un au monde. » Et tu sais, je vois des athlètes qui, parfois, comme ça, décide de se retirer. Souvent, il le regrette, et surtout plus c'est jeune, plus c'est le cas. Alors, je ne sais pas si elle ne le regretterait pas un peu. Mais en tout cas, c'était très intéressant d'entendre Hélène nous donner le fond de sa pensée aujourd'hui. Et je dois t'avouer que oui, ça m'a saisi, parce que moi, personnellement, je n'avais pas envisagé cette possibilité-là. Alors, d'entendre Hélène Pelletier affirmer une chose comme celle-là, c'est vraiment un angle intéressant.
Toute comparaison, pour boucler la boucle sur Eugénie, puis on verra, puis peut-être qu'il n'y a pas de retraite à l'horizon, mais je pense, puis La comparaison n'est peut-être pas tout à fait juste. Je me souviens pas du record ou de l'affiche sur le terrain, mais Anna Kournikova, qui était très, très, très appréciée en dehors des terrains de tennis, qui qui a eu une carrière un peu télévisuelle. Là, elle est disparue du radar, mais peut-être qu'elle est active en Russie ou dans les pays de l'Est, je ne sais pas. Mais même aux États-Unis, elle jouait sur The Biggest Loser à un moment donné. Elle était une entraîneur dans les émissions de perte de poids. Il y a quand même, donc, du côté média, du côté médias sociaux, ne serait-ce que par ses prestations dans Sports Illustrated pour Eugénie Bouchard, qui va chercher un gros tirage quand même. Il y a quand même une façon, je pense, de rester médiatiquement, en tout cas, sans jouer au tennis. Parce que, hey, je te dis que le monde est méchant avec elle, par exemple, ses médias sociaux. Ça, c'est pas drôle. Tu sais, Maxime Paquette, qui me faisait remarquer, Maxime, qui est notre producteur derrière la console, que aussitôt qu'elle pose avec une raquette sur son compte Instagram, tu sais, elle est tournée en dérision d'une certaine façon. Ça, c'est cruel, là. Je trouve ça bien triste.
Tout à fait. Puis, tu sais, quand tu dis oui, il y a d'autres possibilités pour elle, bien sûr, je pense, on dira ce qu'on voudra. Je sais que ce n'est pas aujourd'hui l'athlète la plus disponible pour les journalistes, mais il en reste pas moins que quand elle a le goût de jaser, elle peut être extrêmement intéressante. Alors, elle ferait une très bonne commentatrice aussi. J'ai absolument aucun doute là-dessus. Puis, en plus, elle a toujours eu des analyses un peu mordantes, un peu des points de vue qui sont atypiques très souvent dans le milieu du tennis. Et ça, c'est intéressant parce que elle apporte souvent des éléments nouveaux. Alors, on verra bien comment sa carrière va évoluer, mais ça demeure encore un cas très spécial, celui d'Eugénie Bouchard. On a rarement vu ça dans le sport québécois. Je pense quelqu'un atteint d'un tel sommet et par la suite pas être capable de gérer ça et que ce soit au cours des années suivantes une descente aux enfers aussi rapide et qu'elle soit absolument incapable de s'en ressortir. Alors là, est-ce que c'est simplement, il y a évidemment une question de confiance et tout, mais là, l'aspect physique aussi, il ne faut pas l'ignorer. Elle n'a pas joué depuis 2 mois. Là, elle revient, elle a dit après son match aujourd'hui qu'elle avait encore un peu mal à l'abdomen. Elle dit c'est pas si grave, c'est plus un pincement que je ressens, mais c'est clair qu'elle n'a pas été au sommet de sa condition physique. Alors moi, j'aimerais quand même la voir revenir avec un environnement stable, avec un entraîneur qui serait là pour plus que 6 mois, mettons, avec un focus à 100% sur le tennis. C'est sûr que comme bien des gens, j'aimerais ça qu'elle se concentre uniquement sur le tennis. Elle dit qu'elle le fait. Je me souviens d'y avoir déjà posé la question une année où j'ai couvert Roland-Garros, puis elle dit « Les gens ne comprennent pas. C'est pas parce que je fais un post sur Instagram ou Twitter ou peu importe que je m'entraîne pas 3 heures de temps cette journée-là, puis je peux quand même être de mon époque puis être active sur les réseaux sociaux. » Alors, elle, c'est un peu comme ça qu'elle le voyait. Tu parles aux gens de Tennis Canada qui sont des gens qui disent vraiment ce qui se passe puis nous disent qu'elle s'entraîne très sérieusement, qu'elle est très à son affaire. Alors, quand t'entends tout ça, tu te dis, coudonc, 25 ans, il me semble qu'elle devrait essayer de donner un autre bon tour de piste.
Autre sujet maintenant, les Oilers d'Edmonton, une organisation en déroute continuelle malgré la présence de talents de haut calibre, dont Connor McDavid, qui est là depuis quelques années, qui est devenu le capitaine de l'organisation. On s'est tourné vers un directeur général expérimenté pour reprendre les rênes de l'organisation en Ken Holland, qui a quitté Détroit, qui à son tour confie la direction de l'équipe, c'est-à-dire le poste d'entraîneur-chef de l'équipe à un autre homme expérimenté en la personne de Dave Tippett, qui a 57 ans. Comment accueilles-tu cette nomination pour les Oilers?
Sans beaucoup d'enthousiasme, je dois t'avouer que je trouve même que les sénateurs d'Ottawa ont fait preuve de plus de nous ont surpris un petit peu plus en allant chercher DJ Smith qui a dirigé des joueurs juniors récemment, qui est manifestement bien connecté sur la jeune génération. Dave Tippett, pour moi, c'est un gars de la vieille garde. Je sais qu'aujourd'hui, on dit qu'il a été un précurseur. Je lisais des textes, on dit qu'il a été un des premiers à croire aux statistiques avancées. Déjà, là, il y a bien des années, il y avait son propre système qui est un peu différent pour évaluer des joueurs. Mais il en reste pas moins, Mario, que c'est un entraîneur qui, dans les 5 dernières années où il a dirigé les Coyotes de Phoenix ou de l'Arizona, peu importe comment on les appelle, ça demeure les mêmes Coyotes qui n'ont pas participé aux séries éliminatoires une seule fois dans ces 5 dernières années. Et là, tu as Ken Holland qui dit, bon, c'est ce gars-là qui va nous relancer, qui parle de stabilité parce que Tippett a dirigé longtemps les Coyotes, c'était Dallas avant. Mais je comprends qu'il veut de la stabilité, mais quand même, est-ce que c'est vraiment ce gars-là qui va souffler le dynamisme nécessaire aux Oilers d'Edmonton? Pour moi, ça fait. Pour moi, il y a un gros doute.
Les entraîneurs d'expérience ont la cote, là. Regarde les nominations. Oui. Je dis pas dans tous les marchés. Écoute, je te trouve peut-être un peu sévère quand tu analyses le bilan de Tippett avec les Coyotes de l'Arizona parce que tu fais avec ce que tu as aussi.
Je comprends.
Et ils ont quand même emmené en série 3 années de suite, les Coyotes, au début de
son séjour. Ça a été plus
difficile
après.
Mais, tu sais, il n'y a pas eu beaucoup d'outils dans un marché. À travers les rumeurs. C'est comme diriger les expos, là, dans le fond, avec des rumeurs de déménagement tous les ans. Il a fait du bon travail. Je me rappelle, de Ribeiro jouait pour lui une année avec Dallas. Il est allé en finale de conférence. Et sais-tu quoi? Ils sont pas rendus à la même place que les Sénateurs d'Ottawa. Je pense pas. Tu sais, Ottawa, là, le prochain coach, il est pas sûr qu'il va amener l'équipe en série. Il va amener l'équipe à un autre entraîneur qui, lui, va être chargé de la série dans 2-3 ans. Tandis qu'Edmonton ont besoin de retourner en série maintenant.
Mais tu sais, ce que je trouve, Mario...
d'amener un Tippett qui arrive avec une structure assez claire, là.
Oui, mais le problème que je vois avec ça, c'est qu'ils viennent de passer par cette route-là sans succès.
Avec
quand ils ont embauché Todd McLellan, ils ont dit exactement ça. Après ça, ça n'a pas fonctionné avec McLellan. Ils ont embauché Hitchcock. Exactement ça. Lui, il a l'expérience, puis bon, il va être capable et tout. Ça n'a pas fonctionné.
Mais ça avait commencé par Dallas Eakin.
C'est quand même des gars avec des belles palmarès.
Mais ça avait commencé par Dallas Eakin, qui est un entraîneur recru, qui était de la nouvelle tendance. Ça a fait patate.
Ça n'a pas passé. Mais c'est drôle
en
parce
fait,
que
tout
je disais...
a fait patate, finalement.
Oui. Je lisais tantôt un article, c'est très rigolo, le début de l'article, c'est sur le site de Sportsnet. C'est un journaliste qui s'appelle Mark Spector qui raconte ça, puis il raconte que Ken Harlan, aujourd'hui, Edmonton, lui a raconté une histoire. Alors, Harlan, il se promène dans les bureaux des Oilers, puis là, il rencontre un des employés des Oilers qui lui dit, « Hey, Monsieur Harlan, il dit, savez-vous, il dit, vous êtes mon 5e directeur général depuis que je travaille pour les Oilers. » Alors là, Harlan lui dit, « Ah oui, mais il dit, vous êtes ici depuis combien d'années? » Puis là, lui, il est sûr que le gars va lui dire qu'il est là depuis le temps de l'AMH avec Glenn Seder et Wayne Gretzky. Le gars dit, « Non, je suis ici depuis 2011. » Alors, imagine-toi donc, 2011, il y a à peine 8 ans, son 5e directeur général.
Alors,
c'est un peu... Ouais, c'est pas drôle. Là, on rit, mais c'est pas drôle.
Mais c'est drôle de loin. Quand c'est pas notre équipe, y a pas de problème. Mais tu sais, prends McLellan.
Mais c'est pour ça que Tippett, il dit, moi, je veux... mais Harlan, il dit, je vais embaucher Tippett parce que Tippett, il reste longtemps avec ses équipes. Il va avoir de la stabilité. Il veut de la stabilité. C'est le mot qu'on cherche là un peu à Edmonton.
Tu sais, McLellan n'a pas été un génie, là, mais il a amené son club en série il y a 2 ans. Mais Thierry Lee n'a pas juste fait des bonnes transactions non plus.
Ça n'a pas été un gros mandat pour Thierry Lee.
Très, très concluant. Es-tu embarqué dans la folie des Raptors de Toronto, par ailleurs, qui vont donc affronter les Warriors de Golden State en finale?
Au-delà de ce que j'aurais pensé, je pense que comme bien des Québécois, je me suis fait happer par cette série-là. Je dois t'avouer que l'an dernier, je me souviens pas d'avoir écouté un seul match des séries de la NBA. Peut-être à la toute fin. Oui, je pense que j'ai écouté un match ou deux de la finale pour voir si les Warriors allaient gagner un autre championnat, mais tu sais, pas de façon aussi assidue où là, je sais quel jour est le match, puis à quelle heure est le match, j'ai hâte au match.
C'est un autre niveau, là.
Alors, c'est un autre niveau complètement, puis je pense que on est des milliers au Québec à être dans cette situation-là. Alors, c'est assez le fun de voir ça, de voir comment les Raptors captent l'imagination de tout le monde au Canada. C'est vraiment une équipe très, 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 très le fun à voir jouer avec Kawhi Leonard et puis tous les autres. Beaucoup de personnalités aussi très fortes. Quand tu commences à lire un peu sur les joueurs qui composent cette équipe-là, hier, je lisais un texte absolument merveilleux sur Marc Gasol, tu sais, le grand Espagnol, qui lui, c'est un article dans le Toronto Star, et on raconte que Gasol est très préoccupé par le sort des réfugiés. Il a passé 10 jours sur un bateau en Méditerranée l'été dernier pour aider à la rescousse de réfugiés. Alors, tu sais, il y a des histoires comme ça qui sortent de la grande famille des Raptors. Je trouve que c'est assez inspirant et assez intéressant. Alors, non seulement ils ont une équipe excitante, mais ils ont également des personnalités fortes. Et là, on apprend la grosse rumeur qui court à l'heure actuelle, c'est que, tu sais, que le Canada pourrait peut-être participer aux prochains Jeux olympiques en basket. Hein? Il y a de très bons joueurs canadiens. Alors, aux Jeux olympiques d'été en 2020, le Canada a une chance de se qualifier. Mais s'il se qualifie, le Canada pourrait peut-être même gagner une médaille si tous les meilleurs joueurs sont au rendez-vous. Et le Canada n'a pas participé aux Jeux olympiques en basket masculin depuis les Jeux de 2000 à Sydney. Alors, ça fait un bail. Et là, il n'y a pas d'entraîneur à l'heure actuelle. Et tout le monde se demande, il y a toutes sortes de noms qui ont été mentionnés. Et là, on parle de plus en plus, effectivement, que ce soit l'entraîneur des Raptors de Toronto. Toronto qui prennent en charge l'équipe canadienne.
Ah, mais il est pas confirmé, tu vois. Moi, j'étais en vacances la semaine dernière, puis j'ai pas vérifié. Je croyais qu'il avait été nommé, mais
je pense qu'il a pas encore été nommé officiellement, son nom a commencé à être mentionné pas mal partout, parce que là, il y a un gros tournoi au mois de septembre. En fait, comment ça se passe, c'est que c'est le championnat du monde de la Fédération internationale de basketball, et les équipes qui vont terminer parmi les premières là vont se qualifier directement pour les Jeux olympiques. Si le Canada réussit pas à passer cette étape-là, il y aura une autre chance par la suite avec un groupe d'équipes repêchées plus tard dans l'année, mais il en reste pas moins que ça, c'est l'occasion en or pour assurer la qualification pour les Jeux olympiques.
Alors, mais ça va être un gros tournoi. Confirmé. Mais sur le point de... J'imagine qu'on va laisser la finale.
J'ai l'impression que c'est exactement ça, puis qu'après...
Et ce n'est pas un Canadien, mais les entraîneurs ne sont pas tenus d'être de la nationalité de l'équipe qu'ils dirigent.
Non, pas du tout. C'est pas un Canadien, c'est un Américain, mais quand même, il y a une sensibilité là avec le fait qu'il dirige les Raptors et puis qu'il soit à Toronto. Alors, puis on le voit qu'il est capable de faire du bon travail, puis avec des personnalités très, très, très fortes, il est capable de gérer la vedette. Là, Kawhi Leonard, là, quand tu lis un peu sur... Tu sais, il faut pas trop le faire jouer, puis ça allait mal dans son ancienne organisation, puis pas de deux matchs en deux soirs, puis à travers tout ça...
Mais pas à cause de son tempérament, Philippe.
À cause de son physique.
Parce qu'il a eu des blessures. Il agit pas, en tout cas, il semble pas agir comme une diva.
Non.
Et même les gars de le groupe panel de TNT disent... low maintenance, là, tu sais.
Les gars disaient que c'était, en tout cas,
on n'est pas dans les coulisses non plus, là.
Fort
intéressant qu'on discute de tout ça, mon cher Philippe, et on va s'en reparler cette semaine. Je sais pas si on va se parler avant le match numéro 1 de la finale de la NBA, mais très certainement après, si c'est pas
exactement.
Avant.
Exactement. on en discutera.
C'est sûr.
Voilà.
Salut Philippe.
Bonne soirée, Mario.
Pour la conversation. Et dans quelques instants, François Gagnon, bonne soirée à toi aussi. François est à Boston. On le rejoint dans un petit moment.